Charlie Head.
Vous n'osez pas aller vers les autres ? Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile ? Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
« Deviens un aimant social » de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine, par exemple, vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le Parcours Chance. Vous le savez, un partenaire fidèle de Métamorphose. Parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences.
Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Mon invitée du jour a eu un destin absolument exceptionnel. Malgré les difficultés, elle a suivi son instinct jusqu'à devenir une célébrité, tout en gardant au fond d'elle une part de la petite fille blessée qu'elle était. Dans son dernier ouvrage, Libre, publié aux éditions Le Duc, cette mannequin, cette top modèle de renommée internationale parmi les plus emblématiques de sa génération, animatrice de télévision, comédienne, businesswoman, citoyenne active et engagée pour la Croix-Rouge, nous montre une voie de résilience et nous livre comment elle a avancé en faisant confiance à son destin. À plus de 50 ans, plus libre que jamais, elle vient nous éclairer sur comment suivre sa destinée. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose aujourd'hui Adriana Carambeu. Bonjour.
Bonjour. Merci pour cette invitation.
Avec joie, je suis vraiment ravie de vous recevoir aujourd'hui. J'ai été vraiment touchée par votre livre, par cet ouvrage. De quel élan est-il né ? Je me suis demandé si le fait aussi de témoigner était une manière pour vous, comme vous le dites très bien, d'être libre. Hein, c'est vraiment le titre, c'est un titre fort, libre, pour un titre d'ouvrage. Si c'était une façon véritablement de vous libérer.
C'est exactement comment je me sens aujourd'hui. C'est drôle parce que j'ai réfléchi pour plusieurs titres. J'avais des propositions différentes. Et c'est là, juste, ça sonnait tellement juste. C'était ça. Comme je me vois aujourd'hui, c'est libre. Pourquoi je l'ai écrit, c'est beaucoup de personnes, beaucoup d'amis m'ont dit récemment que j'ai complètement changé et que je devrais écrire comment je me sens et comment je suis parvenue à ce changement parce que ça pourrait parler aux gens. Et aussi, j'ai un enfant, j'ai ma petite fille qui va avoir 6 ans au mois d'août. Et j'avais envie de lui raconter mon histoire tranquillement. Quand on écrit un livre, ce n'est pas la même chose que quand on parle. Et j'avais envie que ce récit reste pour elle.
D'ailleurs, cet ouvrage lui est dédié.
Oui, pour une âme, mon amour.
C'est ça. Ce livre, il a ce titre, Libre, qui est écrit en petit, en fait. Donc, on sent que chez vous, il y a ça. Il y a ce personnage, finalement, qui est extrêmement connu, très célèbre. Vous attendiez pour entrer dans le studio de Métamorphose. Les gens, aujourd'hui, vous reconnaissent, évidemment, dans la rue. Et en même temps, il y a cette humilité, cette discrétion. C'était important aussi, peut-être, que ce livre, il soit pas très gros.
J'ai pas réfléchi à ça. J'ai réfléchi plutôt à la photo qui va être sur la couverture. Mm. Et je voulais que ça soit moi, que ça serait pas vraiment la poupée Barbie ou la princesse que je représente très souvent et avec grand plaisir. Donc ça, c'est pas un souci, mais je voulais juste qu'on me voit sans phare. Et c'est aussi pour cette raison qu'elle est en noir et blanc. Et je pense que la photo est très parlante et qu'elle est très bien choisie. Oui, je voulais une atmosphère très, très, très épurée, très stripped down, très pure. Parce que libre, c'est tellement simple, sans chichi. Mm.
Vous exprimez d'ailleurs dans votre ouvrage que vous avez eu longtemps un sentiment d'invisibilité, d'être invisible. Alors, pour nous qui vous connaissons maintenant, ça paraît peu probable. Et pourtant, on découvre tout ça voilà, à travers le lien notamment que vous avez eu avec votre père, que vous n'avez plus aujourd'hui. Vous dites que vous écrivez aussi cet ouvrage pour tuer le père symboliquement. Hein. On repense évidemment au complexe d'Œdipe et à Freud. Est-ce qu'il y a cette Adriana qui était invisible, qui vit en vous, ou elle a disparu maintenant?
Elle a complètement disparu. Cette invisibilité, je l'ai créée moi-même quand j'étais enfant, car c'était ma protection. Moi, mon père me voyait. Moi, on se croisait le chemin, mieux c'était pour moi. Donc, c'était une espèce de... Oui, protection, instinct de survie. À l'époque, ça me convenait très bien et ça marchait plutôt pas mal. Et après, je suis sortie de là et juste comme par hasard, je fais un métier complètement opposé. Et aujourd'hui, j'ai évidemment, et même pendant que je faisais mon métier, c'est le métier d'image, j'avais juste envie de dire à chaque fois, regardez-moi, je suis là, je suis sortie complètement et très rapidement de cette invisibilité. Ce qui m'a d'ailleurs sauvée, je dirais.
Vous avez senti que l'écriture de cet ouvrage, ou en tout cas le fait de confier cette parole, a été une forme de catharsis pour vous?
Il faut savoir que j'ai laissé tout ça derrière moi déjà il y a longtemps. Mon père, j'ai laissé la valise avec mon père dedans. J'avais peut-être 30, 35 ans. Mais j'avais toujours besoin d'en parler. De me confier car j'ai resté trop longtemps silencieuse et chaque conversation que j'aurais pu avoir avec soit ma mère, soit ma sœur, soit des amis, soit mon mari était très bénéfique. Ça m'a toujours apporté des réponses à mes questions et pareil avec ce livre, c'est de se poser, de réfléchir, de s'arrêter un peu sur le passé, sur le présent. C'est oui, c'est une forme de psychothérapie quelque part. Je pense que c'est un processus qui est très sain. Il était douloureux pour les parties de mon enfance. J'ai vraiment pas aimé, mais je pense que c'était bénéfique.
Vous évoquez votre grand-mère, l'importance qu'elle a eue dans votre vie quand vous étiez justement enfant. On sent que vous la portez toujours aujourd'hui dans votre cœur. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis? J'aimerais bien que vous nommiez la façon dont vous l'appelez en tchèque, puisque c'est très tendre, en fait, cette manière que vous avez de l'appeler.
En fait, on appelle nos grands-parents, vous les appelez en français papy, mamie, je pense. Eh bien, nous, c'est Starka. Starka, c'est pour ma grand-mère, et Starki, c'est pour mon grand-père. Et elle m'appelait Babulka. C'est trop mignon, ça ne va rien dire, hein.
C'est trop mignon, juste, oui.
C'est un truc mignon, on appelle ça peut-être des enfants ou quelque chose de très mignon. Et elle m'appelait comme ça. Et ma grand-mère, heureusement, ma grand-mère et mon grand-père aussi, heureusement qu'ils étaient là parce que c'est ces moments-là où je suis enfant. Je suis tellement heureuse. Il y a rien qui ne va pas. J'ai envie dans une petite ferme. Une petite ferme, c'est une maison avec un grand jardin. Bon, si je le vois ce jardin aujourd'hui, il me paraîtrait peut-être petit, mais à l'époque c'était immense. On était autosuffisant. Ma grand-mère, je me souviens qu'elle achetait que le sucre et du lait du sel au magasin, le reste on avait. Et ils m'ont donné, mes grands-parents m'ont donné tellement d'amour que je me ressource encore aujourd'hui dans ces moments. Et heureusement, parce que grâce à eux, grâce à ma mère, malgré le fait que j'étais un enfant martyr, j'aurais pu rêver d'une vie ensoleillée. Sans eux, ça aurait été compliqué, je pense.
C'est ça qui est poignant, finalement, aussi dans votre récit, c'est que vous avez cet immense bonheur à travers vos grands-parents, et puis vous venez de le dire, ça m'a fait des frissons quand vous l'avez dit, vous étiez un enfant martyr, c'est terrifiant, en fait, ce que vous racontez. Vous étiez battu vraiment très régulièrement, pour pas dire quotidiennement, par votre père, pour... Voilà, pour un oui, pour un non. Enfin, on le formulerait comme ça en français. C'est-à-dire qu'il y avait, de toute façon, il n'y a jamais évidemment de raison de frapper des enfants. Mais là, c'était vraiment permanent.
En fait, c'était plus, comme je dis aussi dans mon livre, c'était pas qu'il me tapait pas tous les jours. Il me laissait pas des. À part quelques fois sur les bleus, parce qu'il y avait la ceinture aussi, mais je saignais jamais. Vous voyez, c'était pas non plus. J'avais pas de blessures par rapport à ces coups. C'est juste l'attente entre les deux événements qui était le plus terrible parce que je savais que ça allait venir. Et j'ai vécu dans cette crainte, dans cette peur. Donc finalement, quand un coup arrive, c'était un soulagement. J'en parle, mais je suis même choquée de ce que je dis parce que oui, mais c'était comme si j'étais soulagée. Je me suis dit, tiens, ouf, je vais avoir un moment de repos un peu après. Non. Anyway, c'était tellement plus psychologiquement insupportable que physiquement. Ça, c'est sûr.
Ensuite, vous, peut-être pour nous raconter votre parcours, vous grandissez, vous êtes dans une famille qui est très attirée par les plantes, par la médecine, par la nutrition aussi, par votre maman. Et vous démarrez vos études de médecine à ce moment-là.
J'ai tellement admiré ma mère. Elle était tout pour moi. J'étais toujours dans ses jupons. Elle me racontait des histoires incroyables de sa jeunesse, de sa vie d'étudiante à l'université. J'avais peu d'amis à l'époque, mais j'avais elle et ses histoires. Je me souvenais de prénoms de toutes ses copines, de toutes les personnes qu'elle rencontre. C'est comme si j'imaginais une autre vie en parallèle à travers de ma maman. Et donc, j'ai toutes les histoires qu'elle me racontait qui s'étaient liées à ses études à Prague, dans cette université majestueuse, parce que c'est une deuxième, je pense que c'est la deuxième plus vieille d'Europe, je crois. Elle est très belle en plus, le lieu est magnifique. Donc j'imaginais, je me suis fait des films sur sa vie. Et donc mon rêve absolu, ça a été de faire la même chose en fait. Mais là, l'université était loin, c'était à Prague, nous on vivait en Slovaquie. Et puis mon père, il n'avait pas envie que je fasse l'université. Lui, il voulait que je gagne de l'argent et que, je sais pas, que je me débrouille toute seule. Mais avant le bac, j'ai quand même osé. Je me suis inscrite, même si c'était compliqué, hein, le concours hein, de fou. Et en plus, c'est loin. Il y avait un quota pour les personnes qui viennent de Slovaquie. Il y avait très peu de gens qui ont été acceptés. Bref, ça me paraissait comme une mission impossible. Mais je me suis dit, je regretterai toute ma vie si je n'essaye pas. Et je suis admise et waouh! C'était le rêve, c'était dur. Hein. Je pense que c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite. Mais qu'est-ce que c'était magique. Et en plus, je suis vraiment sous les pas de ma maman. Je rencontre le même professeur qui m'emmène des fois. Il y a un professeur qui m'a dit, il ne pouvait pas savoir, je ne porte pas le même nom que ma mère. Et il m'a dit, dites bonjour à votre maman de ma part. Vous vous ressemblez tellement, c'est un truc de dingue. J'étais très très fière, c'est pour la première fois je commence de douter un tout petit peu de ce qui m'a dit mon père toute mon enfance. Je me suis dit peut-être il y avait un petit doute, dans mon cœur que peut-être ma vie ne serait pas si nulle que ce qu'il a prévu pour moi.
Vous racontez d'ailleurs des anecdotes en fac de médecine, puisque vous allez aller jusqu'à la troisième année, ce qui est presque le cap le plus difficile, on le sait. Ce sont des études qui sont extrêmement difficiles. Et vous racontez des anecdotes où, à l'époque, on lance en fait des os, c'est ça? Et il faut dire le nom très, très vite, sinon on est viré de la classe?
Oui, c'est avec le professeur Bavor qui nous a quittés, mais que j'ai adoré tellement. Il était incroyable, mais il est vrai. Le matin, il jetait des ossements, des os, ça se dit, des petits os de la main et des pieds dans l'amphithéâtre. Et chaque personne qui l'a attrapé était obligée de se mettre debout et de dire ce que c'est. Même les facettes de petits os, ils sont petits, hein, c'est comme des petits cailloux. Même des facettes de ces os, il fallait nommer en slovaque ou tchèque, peu importe, et en latin. C'est cette partie-là qui était compliquée parce que les noms en latin, ils avaient 3 kilomètres. Mais c'était un jeu, un fribon. Voilà, on sort de la classe et on sait que la prochaine fois, on ne va pas se louper. Ça, c'est sûr.
Alors, ça apprend à réfléchir vite, à avoir des réflexes, j'imagine. Et là, vous vivez quand même une forme de liberté, même si c'est dur, il faut travailler. Mais vous êtes à la faculté, donc vous n'êtes plus dans votre milieu familial et vous goûtez pour la première fois, justement, à une forme de liberté, Adriana.
Oui, parce que je quitte la maison. Je quitte le foyer avec mes parents. J'y vais. J'habite dans une petite chambre avec 5 filles. Nous sommes 5, donc avec 4 autres. Et mais je suis seule. Je suis seule. Je travaille la nuit pour gagner l'argent pour mon loyer. Je travaille 4 nuits par semaine parce qu'il fallait dormir quand même un peu, minimum. Mais c'est jouable. 3 à 4 nuits, c'était jouable. Avec mon petit ami, on se faisait l'argent comme ça. Et le jour, je suis à l'école sur le microscope ou des autopsies, tout ce qui concerne la médecine. Et là, il faut que je justifie ma place là-bas, car je suis admise, très bien, mais il faut que je sois à la hauteur, c'est très dur, c'est vraiment très dur. La première année, deuxième année, c'est la plupart des gens, ils partent, ça passe pas. Donc, je suis très sérieuse, je pense beaucoup, mais c'est chaud. Quand je pense aujourd'hui, c'était un truc de dingue. Mais dingue, j'ai le temps pour rien. Je suis jamais sortie de cette bibliothèque, j'ai l'impression. C'était entre les cours, je dormais 4-5 heures par nuit. Mais j'apprends, je fais mes examens et je commence de reconnaître un peu mes, je sais pas, qualités ou capacités. Non, en tout cas, ça me fait un bien fou.
On le verra plus tard, hein. Vous avez découvert bien après que vous aviez en fait des capacités intellectuelles hors du commun, mais vous le voyez, j'imagine, déjà en médecine, parce que c'est absolument pas à la portée de tout le monde. Vous n'avez pas vraiment conscience à cette époque-là de votre beauté spectaculaire, et finalement ça va un peu vous tomber dessus. Alors je dis ça parce qu'on le sent, vous en parlez très peu dans le début du récit. Vous vous voyez surtout dans le regard de votre amoureux de cette époque qui vous trouve belle. Et en fait, c'est ça qui est important pour vous, c'est surtout ça. Le reste vous importe assez peu, il me semble, en tout cas, en vous lisant.
Car dans mon pays de l'époque, on s'arrête pas sur la beauté physique, mais du tout. On n'a pas cette culte de la beauté, de la séduction. Les femmes s'apprêtaient à l'époque vraiment pas du tout. On a la mode n'existe pas, les femmes, les hommes sont habillés de la même manière, on s'achète des vêtements qui sortent d'usine, c'est, il y a pas de style, ça n'existe pas. On a un magazine de mode, mais dedans il y a des fringues de l'usine, franchement ça ressemble à rien. Et donc mais moi je me souviens que ma maman elle était très très belle et elle confectionnait ses vêtements elle-même. Elle s'est maquillée, elle était canon, vraiment. Donc, je vois ma mère qu'elle est juste magnifique. Mais à part ça, j'apporte franchement aucune attention à moi-même. Je me trouve ni belle, ni moche, ni rien. Je considère pas du tout ma beauté physique, enfin, mon physique du tout. Personne, ma grand-mère m'a dit que que je suis sa jolie petite fille, mais on dit ça à toutes les petites filles parce qu'on les aime. Mmh. Et la première fois où je me suis... Et encore, avec oui, mon petit ami, il m'a dit, ouais, t'es jolie, peut-être. Ou, je sais pas s'il m'avait dit, mais j'ai vu dans ses yeux que je lui plaisais. Donc ça, c'était la première fois où je me suis dit, tiens, c'est... Ah, je sais pas, est-ce que c'est... Non, il m'aimait.
Oui, donc, c'est l'amour, l'amour en
elle aussi. L'amour, même si j'étais pas jolie, ça aurait été pareil. Mais comme il était très, très beau... Ah, je sais pas, je suis même pas sûre quand j'y pense. Est-ce que je sais pas.
C'est pas facile, hein. En plus, c'est pas facile de se remettre dans une émotion d'il y a longtemps.
Oh, oui. Mais franchement, je pense que j'ai dit dans un interview qu'il m'a trouvé jolie, mais maintenant, comme je repense, je suis pas sûre que c'était ça. Il était amoureux, ça, c'est sûr.
Vous étiez amoureux l'un l'autre.
Ah,
quoi,
mais
c'est
follement.
Ça.
Ouais, c'était mon premier amour et on s'aimait. On était très beau. On était un très beau couple. Voilà, d'où peut-être quelque chose qui est lié à la beauté, parce que je sais qu'on était connus un peu dans cette petite ville de 150 000 habitants, qu'on était très beau comme un couple. Donc je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai une petite partie dedans. Mais lui, il était très beau.
Et à ce moment-là, alors certainement vous êtes amoureuse, vous êtes étudiante, peut-être vous rayonnez, vous êtes belle. Et votre vie bascule à ce moment-là, et c'est intéressant de le raconter parce que c'est là où vous allez partir définitivement, émigrer définitivement vers Paris, qui devient une ville ensuite chérie pour vous.
Ouais, je suis partie complètement... c'était très bizarre, je suis découverte dans un magasin de vêtements. Je suis en train d'acheter mon maillot de bain. La personne m'a amené au casting qui se déroule juste à côté. Et là, j'ai billet quelques semaines plus tard. Il revient, ce monsieur, avec un billet d'avion dans la main pour moi, que je refuse, car j'ai mes études, j'ai mes responsabilités, j'ai mon petit ami. Et surtout, je voulais plaire à mes parents. En disant non, je pensais de gagner en... Je dis, tiens, je suis une fille sérieuse, ils vont être contents de moi, que je refuse ça, parce que je suis à l'école, je suis bonne élève. Et c'est là où mon père, très bizarre, m'a dit, mais vraiment quelques temps avant que je prenne l'avion, j'ai failli le louper d'ailleurs. Non, tu fais ta valise et tu pars pour Paris. Tu vas voir la Tour Eiffel et tu reviens s'il faut. Mais qu'est-ce que j'étais contente. Je partais pour une aventure que j'ai tant rêvé. J'ai rêvé d'un truc, j'ai rêvé d'une vie extraordinaire, mais c'est que dans ma tête, que dans mon imagination, je voulais être une héroïne, une superwoman. Et là, j'ai le créneau. Là, je sentais qu'il y a des choses qui vont se passer pour moi.
Vous avez comme ça une forte intuition dans la vie. Vous sentez que c'est quelque chose que vous avez développé ou que vous suiviez déjà cet instinct quand vous étiez toute jeune?
J'étais très, très instinctive toute ma vie. Ou peut-être que c'est l'instinct qu'on développe quand on est très introverti,
oui.
Ou quand on est souvent... Que dans l'observation, j'avais l'impression que j'observais la vie dans ma invisibilité plutôt que la vivre. Et c'est là où l'instinct joue beaucoup. Car je développais peut-être la capacité de sentir les gens aussi. C'est aussi une forme de protection, je pense. De les lire d'une certaine manière, oui. Mais j'ai toujours pensé ou senti que je vis comme si je vécu derrière un rideau. Et comme je pars à Paris, là, je vis ma vie, la vraie. Je le sens. Je la sens sur tout mon corps. Je suis dehors. Je suis sortie. Souvent, je dis, je suis née à Paris. C'est pour ça que je dis à chaque fois Paris, mon amour, parce que j'ai vécu mes 400 coups. Paris m'a tout donné, elle m'a offert cette nouvelle vie.
C'est comme une nouvelle naissance. D'ailleurs, vous avez un chapitre qui s'appelle Renaissance, qui n'est pas forcément lié à cette ville, mais quand vous arrivez à Paris, vous vivez ça, c'est très difficile les débuts. Vous êtes en colocation avec une autre mannequin avec qui vous parlez la même langue, donc ça facilite quand même un peu les choses, mais vous êtes sans le sou l'une et l'autre. Vous êtes vraiment... Vous êtes très volontaire, mais c'est dur, les temps sont vraiment durs. Il faut s'imaginer que vous arrivez peut-être à Paris, quoi, dans les années 90 à peine.
C'est ça, mais c'est vrai que ça peut paraître, quand j'y pense, ça peut paraître... Et c'était dur. Oui, j'ai pas d'argent, j'ai vraiment pas un sou. Ma copine, elle avait un peu. Je parle pas français, évidemment, je parle pas anglais non plus. Je sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est parce que c'est ce métier, je connais pas ce monde. J'arrive du pays de l'Est dans un autre monde. Je suis habillée, j'ai des vêtements qui n'existent pas, c'est un truc. On dirait que je suis déguisée, déjà. Je dois jouer dans les camps des grands, ça veut dire, j'ai une... Ce que je vois devant moi, je me dis, waouh, c'est des jolies filles, elles sont m'apprêtées, c'est de la folie, je me dis comment je vais le faire, mais en même temps, comme vous dites, je vis ma vie, il n'y a personne... qui est derrière moi pour me descendre ou de m'humilier. Et je suis entourée plutôt par des gens qui m'encouragent, qui me disent « vas-y, tente », au moins de ce que je comprends. Avec ma copine, qui est ma colocataire, pareil, on essaye de se débrouiller toutes les deux. Donc non, c'est moi, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien, je me sens heureuse. Je me suis dit, je vais tenter, je vais tout faire pour. Je n'avais pas du tout envie de rentrer. Mais j'avais conscience, je savais qu'il fallait que ça bouge, justement pour que je puisse rester.
Aujourd'hui, comment vous voyez, je me suis demandé, cet abandon de vos études de médecine que vous avez... peut-être réconcilier une autre partie de vous-même par rapport à ces études de médecine en travaillant avec Michel Simès autour d'une émission de la santé. On sent que c'était vraiment cette passion, certainement, chez vous, qu'il y avait chez votre mère. Puis ensuite, quand vous faites ces 3 années de médecine, il y a cette détermination, cette battante quand même qu'on sent. C'est-à-dire que vous abandonnez ces études qui pourtant vous tiennent à cœur. Vous y repensez encore parfois aujourd'hui ?
Très rarement. C'est bizarre car, comme vous dites, j'ai pas quitté la médecine. C'est vraiment une chance hallucinante que Michel Simès ait l'émission que j'ai fait avec lui pendant 11 ans, qui parle de la santé, qui parle de bien-être, qui parle du corps humain matin soir. Et aussi la Croix-Rouge, où je suis l'ambassadrice depuis 25 ans. Donc oui. Cet univers, cette première passion que j'avais, je l'ai bien retrouvé, mais vraiment cadeau de la vie. Et du coup, j'avais l'impression de jamais quitter la médecine. Je n'ai pas regretté non plus, car je ne peux pas regretter cette chance que j'ai saisie. C'est tellement énorme ce que la vie m'a offert, car ça serait honteux de regretter. Je n'ai jamais vraiment regretté. J'avais la conscience de remplir le temps qui m'a été consacré à l'étranger pour le vivre pleinement et pour assurer mon futur. Car je le savais dès le début que le métier de mannequinat est très court. Et je le savais aussi, même si j'ai interrompu mes études 2 fois pour 2 ans, à un moment donné, si je rentre à 28 ans, je ne vais pas refaire 12 ans des études. Ça aurait été compliqué. Donc, j'ai veillé sur la qualité de travail que j'ai effectué dehors. Car voilà, c'est ma vie. Je suis obligée d'être indépendante. Et peut-être que même ma future vie après mannequinat serait basée sur l'argent que j'allais gagner pendant ce temps-là. Donc, je n'avais pas du tout envie de perdre mon temps.
Vous avez d'ailleurs été toujours indépendante financièrement dès le début quand vous arrivez à Paris. Alors vous avez un autre petit ami et puis vous emménagez chez lui des gens qui sont plus à l'aise et qui vous soutiennent. D'ailleurs, vous leur rendez hommage dans cet ouvrage. Mais vous tenez beaucoup à votre indépendance. On le sent, hein, ça fait partie aussi de votre personnalité. J'imagine, vous voulez vraiment vous en sortir seule. Et malgré tout, vous avez toujours ce sentiment de un peu de syndrome de l'imposteur qui vous colle pendant un bon moment.
Je voulais être indépendante car quand j'avais 10 ans, mon père m'a dit « Sois heureuse que tu ne payes pas le loyer chez moi. » Et à partir de ce moment-là, je me suis dit ouais, « je vais payer mon loyer, t'inquiète pas. » Et c'était le cas. Après, c'était aussi assez facile car dans le mannequinat, on gagne l'argent rapidement et pas mal. Donc ça a été le cas toute ma vie. Après, mais c'est aussi le premier maillon vers la liberté. Je pense, on ne peut pas être libre si on n'est pas indépendant. Hmm. Dépendre des gens, ça veut dire pour moi d'être coincé dans des situations où, par obligation, on ne peut pas partir. Et ça, c'est très dur. C'est impossible pour moi. J'ai toujours veillé sur ça. Et j'ai oublié la question d'ailleurs.
Non, c'était par rapport au syndrome de l'imposteur.
Vous
voulez être indépendante, voilà. Même si vous gagnez beaucoup d'argent, vous colle à la peau. Oui.
C'est que je suis en train d'exercer un métier que je ne connais pas du tout. Je me demande à chaque fois, est-ce que c'est assez? Est-ce que je le fais assez bien? Ce n'était pas le cas dans le mannequinat, car des premiers moments, je me suis sentie tellement à l'aise. Mon physique m'a jamais posé des problèmes. D'ailleurs, si on veut exercer ce métier, il faut aimer son corps à 100%. Chaque millimètre carré de notre corps, il faut le mettre en valeur. Et si on le met pas, c'est que ça marche pas. Mais c'est plutôt après, comme les premiers télés qui m'offrent des opportunités, les premiers plateaux, les premiers tournages cinéma, là, je sens que je suis terriblement timide et que je parle pas très bien la langue. J'arrive pas, même avec l'émission de Simès au début, j'ai du mal à prendre ma place. Je vois Michel, comment il est à l'aise, comment il vit chaque tournage avec énormément de plaisir, et moi, j'ai du mal. Je suis sous le contrôle, j'ai besoin de le regard des autres pour valider ma prestation. C'est ce qui fait partie aussi d'ailleurs de ce processus de se faire confiance, mais au début je doute tout ce que je fais. Je veux tellement bien faire que ça me met un stress mais considérable dans chaque moment et chaque travail. Et à chaque fois, je me demande, est-ce que j'aurais pu mieux faire? Est-ce que j'aurais dû mieux faire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Bref, c'est fatigant. Et surtout, que ça enlève le plaisir que je devrais prendre pendant mes tournages, que je prends maintenant. Et là, je vois la différence et waouh, ça n'a rien à voir.
Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un moment donné cette confiance en vous, cette peur aussi, vous en parlez, vous dites cette satanée peur qui vous entrave à chaque pas. À un moment donné, il y a une bascule. Qu'est-ce qui fait, comme il y a eu une bascule, c'est-à-dire que vous découvrez cette vie à Paris, vous êtes sélectionnée, vous démarrez cette carrière qui va être fantastique, extraordinaire, vous gagnez beaucoup d'argent tout de suite. Vous vivez une vie de marathonienne, hein, vous le dites bien aussi, hein, vous enchaînez. Mais vous vivez quand même avec cette peur au ventre. Et qu'est-ce qui fait que vous prenez maintenant confiance en vous, Adriana?
Ça se construit. Ça se construit petit à petit, doucement. Je sais que la précédente émission, la future émission, la prochaine va être meilleure que la précédente. J'ai l'impression que c'est un Lego, un château qui fait de Lego de milliards de pièces. Et heureusement que j'avais envie de le... Parce que, en fait, pourquoi je suis motivée? Parce que je sais en fond de moi que ma place n'est pas là, que je suis destinée d'être ailleurs. Et pour arriver à cet ailleurs où je suis heureuse, il faut y aller. Et à chaque fois que j'ai peur, c'est aussi un moteur, c'est un indice qui me dit « vas-y, tu ne peux pas rester là ». Là, quand tu restes là, tu vas trop regretter, tu ne vas pas être contente. Donc j'y vais, je tremble, j'ai les jambes en coton, mais j'y vais quand même parce que je sais que je serai tellement, contente après et que ça va être tellement jouissif. Mais il y a ces milliards de défis sur lesquels les gens ne s'arrêtent même pas. Comme vous avez des gens comme par exemple Michel qui a confiance en lui tellement développée, lui ne va même pas s'arrêter sur des petites choses où moi j'arrête et où moi je lutte. Donc c'est vraiment ça, ça prend des années bien évidemment où ça donne quelque chose. Mais c'est de mieux en mieux, je me sens de mieux en mieux, plus en plus à ma place. C'est vraiment un mosaïque vraiment énorme, c'est un tableau. Et puis à la naissance de ma fille, et là c'est rapide, là c'est waouh, c'est l'ascension. J'ai jamais vu ça, ma fille m'a donné un cadeau, mais inestimable. Elle est née, et avec son existence, elle m'enlève, elle balaye toutes les peurs que j'aurais pu avoir. Elle me rajoute une. C'est la peur que je vais avoir pour elle pour toute ma vie. Mais c'est une peur qui est... On dit une peur ou un peur ?
Une peur, tout à fait.
Ouais. C'est une peur qui n'est pas négative, c'est une peur qui est normale. C'est une peur d'une maman pour son enfant. Donc, ça, elle va rester. Mais les autres se sont vaporisés. Je pèse mes mots. Mmh. C'est vraiment ça. Parce qu'avec la naissance de ma fille, j'ai gagné en c'est que j'ai aucune peur. Là, je vous dis, et c'est sincère, j'ai peur de rien. Mmh. J'ai peur des choses qu'on ne peut pas influencer dans la vie. La santé, des accidents, des malheurs. Mais le reste, vraiment, il n'y a plus. Et aussi, elle m'a donné tellement d'amour, tellement de bonheur, l'amour inconditionnel que j'ai pas eu avant, à part l'amour pour mes grands-parents et ma mère et mes amoureux. Mais là, c'est encore autre chose. Là, un enfant, vous le savez très bien, c'est ça dépasse tout. Et oui, je suis devenue une lionne pour ma fille.
C'est ça. D'ailleurs, vous le dites dans le livre, ça a été compliqué pour vous d'arriver à vous dire oui, à un moment donné, j'ai envie d'un enfant. Notamment, vous racontez quand vous êtes avec Christian Carambeu pendant votre mariage, lui a ce désir d'enfant et vous ne vous sentez pas prête, notamment liée à votre histoire et à votre enfance. Ça n'a pas encore éclos complètement ce désir d'enfanter.
C'était très étrange. Même aujourd'hui, j'essaye de vraiment me dire ou me demander pourquoi. Je ne sais pas, comme vous dites, je n'étais pas prête pour des raisons différentes. Maintenant, oui, peut-être c'est mon enfance. Peut-être que j'avais peur de devenir mauvaise mère car j'ai vécu un mauvais père. Je me suis sentie enfant... Je me suis sentie comme un objet qu'on ne veut pas, qui nous embête, qui est de trop. Donc ça se joue... J'imagine. J'ai aussi... j'imaginais pas... C'est horrible ce que je dis, mais c'était un peu vrai. J'imaginais pas aimer une personne que je connais pas. C'était bizarre. J'étais amoureuse de mes hommes, mais un enfant, j'arrivais pas à comprendre. Ça rentrait pas.
Ce lien d'attachement, oui.
Oui.
Parce que vous ne l'aviez pas vécu forcément, alors vous ne pouviez pas l'appréhender comme ça instinctivement.
Je vous parle honnêtement parce que vraiment j'aurais pu inventer milliards de scénarios différents, mais c'était ça, j'arrivais pas, ça ne venait pas. J'avais pas ce désir-là.
Et pourtant vous avez parlé d'amour pour vos hommes, il y en a eu plusieurs, on sent que vous êtes extrêmement entière dans vos liens amoureux, à chaque fois c'est vraiment... très fort, la personne aimée, vous la chouchoutez comme elle vous chouchoute. Il y a quelque chose d'assez fusionnel, finalement, dans vos relations amoureuses. Si je peux employer ce mot, vous l'employez, je crois, il me semble, une ou deux fois. Vous donnez tout, vous avez cette entièreté comme ça à l'autre. Vous découvrirez après que ça fait partie de votre constitution, hein, que vous êtes comme ça.
L'amour est tout pour moi. Je me nourris de l'amour, je ne peux pas vivre sans. Et comme je le sens plus ou je suis plus heureuse dans le couple, je suis obligée de partir. L'absence de l'amour m'insupporte. Il me le faut, c'est vraiment vital pour moi. Et je donne tout, je suis entière et mon homme est tout pour moi. c'est mon meilleur ami, c'est mon amant, c'est mon pote, c'est ma copine, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon enfant, des fois même. C'est, y a tout dedans. Et je peux pas, c'était toujours mon moteur et c'est toujours quelque chose que je recherchais et je pense que je vais juste jamais cesser de le rechercher. C'est tellement important pour moi de partager chaque seconde de ma vie avec quelqu'un. Je trouve ça tellement plus beau, tellement plus coloré, animé. Je sais pas, il me le faut à chaque fois.
Vous découvrez aussi, je le disais tout à l'heure, que vous êtes surdouée. Est-ce que ça a joué déjà pour votre confiance en vous? Alors, vous découvrez à la fois que vous êtes HPI au potentiel intellectuel, mais aussi HPI au potentiel émotionnel. On le sent, hein, vous êtes une hypersensible, une battante, quelqu'un de fort, mais aussi avec cette hypersensibilité qui est magnifique. Ça vous a soulagé quelque part de mieux se comprendre souvent, hein, quand j'ai interviewé beaucoup d'experts autour de la surdouance. Il y a quand même une reconnaissance de « Ah, c'est pour ça aussi que je fonctionne comme ça ».
C'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit à chaque fois... Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais t'as au moins 40 drones qui tournent en dessous de la tête sans cesse ». Et mais je ne me suis pas vraiment préoccupée de cela. Mais comme c'était dit, en fait, je pensais que tout le monde fonctionne de la même manière. Donc, je me suis pas pris la tête pour ça. Mais comme c'est dit et acté, c'est ce qu'on s'est dit. Et ce que vous dites, on s'est dit, ah, OK, donc c'est pour ça, je comprends. Et après, on avait un peu plus sensible. J'ai lu un peu sur le fait. Et ça explique tellement de choses. Et du coup, on ne culpabilise pas parce que je culpabilisais un peu. Ah oui, mais pourquoi je dois ruminer à ce point sur ce truc qui est peut-être pas important? Pourquoi je dois chercher 40 solutions s'il suffit une? Bon, bref. Ça s'explique beaucoup de choses. On s'est dit, OK, c'est ainsi et on utilise. C'est un atout, je trouve, quand même. Donc, je me fais confiance beaucoup plus qu'avant. On s'est dit, OK, ça, c'est une bonne chose. C'est un compliment, quand même. Donc, ça fait plaisir, finalement.
Vous l'avez découvert plus tard? Vers quel âge?
Ah, c'était dans l'émission, en fait. Dans l'émission avec Michel Simès, où on a fait l'émission sur le cerveau. On s'est fait mesurer le potentiel intellectuel plusieurs fois, d'ailleurs, à travers de plein de tests. Et quand je découvre ça, franchement, je ne me suis pas attendue à ça. Donc, j'ai dit justement juste la phrase « Vous vous êtes trompé ». ça ne peut pas être vrai. Bref.
Mais c'est vrai que c'est aussi une des caractéristiques, je crois, des HPI, c'est que comme ils ont une façon de fonctionner qui est différente, une façon différente d'être au monde, en plus chez vous c'est couplé avec le HPE, ils ne croient pas que c'est pour eux, en fait, ça. Donc ils doutent.
C'est ça. c'est une des caractéristiques... hypersensibilité aussi, l'absence de justice nous insupporte, mais il y a plein d'indices pour savoir. Mais encore une fois, c'est aussi cette possibilité de s'évader avec le cerveau, de chercher un milliard de... Moi, je trouve ce processus est très agréable. Aujourd'hui, amusant, et il ne me pèse pas, en fait, puisque maintenant je le comprends. Je vis très bien avec, c'est pas du tout pénible.
Vous êtes en paix, en fait, aujourd'hui, ouais. On le sent. Peut-être revenir aussi sur votre parcours de maternité qui a été difficile et qui vous ouvre en parallèle un autre rapport, en tout cas à une forme de spiritualité. Est-ce que c'est lié à cette difficulté où vous aviez déjà ce terreau comme ça d'ouverture spirituelle à des mondes invisibles, voilà, qui pourrait être une forme finalement de foi, quelle qu'elle soit?
Puisque je suis très cartésienne à la base, il faut tout m'expliquer et re-expliquer jusqu'à que je comprenne tout la dernière goutte. Mais en fait, le monde n'est pas si facile que ça. Il y a des choses qui ne sont pas encore expliquées, explorées. Et donc, moi, je le considère aussi, le monde parallèle. C'est très bizarre. Car je l'ai vécu. On a fait une émission avec Michel Simès, un peu sur cet univers-là.
Oui.
Et quand on ne peut pas tout comprendre, c'est qu'il y a de la place pour le reste. Et je pensais à ce monde parallèle aussi quand je voulais tomber enceinte. J'avais l'impression que j'employais tout le monde, tous les endroits sur Terre et dans l'univers pour mettre toutes mes forces et toutes mes possibilités ou toutes mes chances de mon côté pour pouvoir vraiment trouver mon enfant. Et je serais allée même en l'enfer pour la chercher, bref. Mais c'est vrai que... c'est encore assez mystérieux, cette partie. Mais je ne suis pas du tout fermée à tout cela, ce que j'y étais avant. Est-ce que j'ai vécu avec Michel pendant une émission en particulier, ou cette force de ce monde mystique. Franchement, ce monde s'est présenté à moi. J'ai vécu ce moment très fortement. Et depuis, voilà, je le considère. C'est ça ce que vous voulez savoir?
Oui, c'est tout à fait ça. Comme si vous avez le sentiment en particulier, alors il y a eu cette émission, mais aussi avec votre fille, comme si vous aviez la conviction qu'un miracle presque allait se produire, que ça allait arriver.
Et j'ai prié de partout. Je croyais fortement, mais après, en même temps, je comprends comment la nature fonctionne. C'est aussi peut-être pour ça que je suis allée chercher ailleurs, avec ma tête, car sous le papier, si la médecine me parle et le corps humain me parle, c'était une bataille perdue. C'était perdu d'avance. J'avais très, très peu de chance. Mais je me suis dit, tant pis, je m'en fous. Je dépasse la frontière du réel. Je suis partie chercher ma fille peut-être ailleurs, mais je l'ai trouvée. Ou sinon, on résume ça dans un seul mot, j'avais beaucoup de chance.
Mais quand vous avez dit, je serais presque allée la chercher même jusqu'en enfer, c'est fort quand même comme parole. Parce que ça veut dire qu'il y avait à ce moment-là comme un désir qui vous a... Alors c'est imagé, j'imagine ce que vous dites, mais il y a eu un désir extrêmement puissant qui n'était pas là, qui était absent avant et qui là s'est invité complètement dans votre vie. Ça ne pouvait pas être autrement. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ce qui m'a aidée, mais quelqu'un m'a aidée, c'est sûr.
C'est ça.
Et je le suis vraiment reconnaissante et un immense merci. Mais c'est vrai, c'est aussi un parcours de combattant quand on veut tomber enceinte à cet âge. Mais j'étais prête à cette guerre. Parce que dès que le gynécologue m'a averti et que j'ai compris que ça va être extrêmement dur, j'étais prête. Et toutes les démarches qui ont été des échecs ne pourraient pas m'ébranler. J'étais prête. J'aurais pu subir n'importe quoi. C'est le résultat qui compte. Et dès que mon enfant arrive sur ce monde, j'oublie tout. Mais immédiatement.
On sent que ça vous révèle aussi à vous-même. C'est une autre place que vous prenez à ce moment-là. Vous parlez de cette femme. Vous dites, moi, Adriana, je suis une petite fille dans le corps d'une femme fatale. Vous parlez aussi de cette femme alpha, puissante et indépendante. Comment est-ce que maintenant que vous sentez, vous dites plus peut-être à votre place, même si on peut dire que vous avez toujours été d'une certaine manière quand même à votre place, parce que vous menez cette carrière, même quand vous êtes en médecine, on pourrait parler de destin. Donc quand on suit comme ça sa destinée, on est toujours un peu à sa place, même si on est peut-être moins épanoui que vous l'êtes aujourd'hui finalement. Comment est-ce que vous voyez maintenant là? Vous dites, je suis dans ma cinquantaine, voilà, au début de ma cinquantaine, je me sens libre et finalement, il y a quelque chose de très épanoui qu'on sent peut-être arriver.
En fait, pourquoi j'étais peut-être toujours à ma place? Parce que je pense que ce qui est vraiment important, et c'est aussi ce que je voulais dire dans ce livre, c'est que j'étais élevée avec mon intérieur était effacé, il était rasé. À 20 ans, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux faire. Mais j'avais un doute. J'avais un doute, et surtout pendant mes études de médecine, j'avais un doute qui était en moi que peut-être mon père s'est trompé et que ma vie n'est pas destinée à rien. C'est que peut-être, si je suis ce cap, je voulais être dans un endroit où je suis bien. Et je me suis aussi dit que je mérite d'être dans un endroit où je suis bien et en paix avec moi-même. Et que je suis heureuse, je voulais être heureuse. Et je sentais, dès que je partais, que je me suis éloignée de lui, que ça aurait pu se faire. Et je me suis dit, je ne veux pas lâcher ce chemin, je vais rester sans cesse sur cette route. Et c'est aussi ce que je voulais dire, dans la vie, qu'il faut veiller sur notre bonheur, qu'il ne faut pas se perdre. Souvent, on fait des compromis, souvent, on se dit, on est dans un endroit où on n'est pas vraiment heureux, mais on n'est pas malheureux non plus. Et on reste par confort, ou parce qu'on est feignant, ou parce que ça ne fait pas le bruit autour. Mais je pense qu'on n'a qu'une vie et ça vaut la peine d'y aller jusqu'au bout. Là, parce que quand on vous retrouve dans un endroit où tout est bon et comme vous le voulez, ça vaut l'or. C'est là où je suis aujourd'hui et je pense que ça valait la peine. Mais il faut veiller, il faut pas se perdre. Et aujourd'hui, j'ai 52 ans. Je me sens vraiment bien, à part encore des éléments qui peuvent venir à droite, à gauche. J'ai toujours peur de ça, d'ailleurs, qu'on ne peut pas influencer. Et avec des choses qu'on ne peut pas changer, on ne peut que faire la paix avec, de s'adapter, si vous voulez. Mais si on a la possibilité d'influencer notre vie, et on a, sur toutes les autres parties, il faut le faire. Il faut chercher, mais chercher son bonheur à tout prix, je pense.
Vous avez cette puissance intérieure qui vous permet d'être résiliente. Hein, on le sent, il y a vraiment beaucoup de résilience. Est-ce que vous pensez que chacun est capable de cette résilience, ou certaines personnes, finalement, qui ont vécu des traumas tellement forts? C'est une question que je me pose, moi, encore aujourd'hui. Pour des personnes qui ont vécu des traumas, ils voudraient, mais ils ne peuvent pas. Il y a de tels empêchements que peut-être que certaines personnes, mystérieusement, n'y arriveront pas.
Oui, je rencontre beaucoup de gens qui me racontent leur destin, leur problème, en comparaison avec le mien, parce que j'en ai parlé auparavant dans les interviews. Et ils me disent, j'arrive pas, c'est là, je suis comme ça parce que j'ai vécu ça. Ça me met des barrières dans ma vie. J'arrive pas à être moi-même avec des gens, avec des membres de ma famille. Je trouve ça tellement douloureux et compliqué. Car j'ai vu un psy justement il y a longtemps, j'avais autour de 30 ans, qui m'a dit que c'est pour des personnes comme moi. Moi, dans mon cas, enfant martyr, soit on prend le chemin qui est le chemin de la délinquance ou d'abus, de la drogue ou je sais pas quoi. Ou sinon, on prend l'autre parce qu'on développe tellement cette résilience et qu'on a envie de justement de changer tout ça et de vivre la vie heureuse. Ce que j'ai pris, en tout cas, j'espère. Mais c'est aussi parce que j'étais beaucoup aidée par ma mère, par mes grands-parents qui m'ont donné énormément d'amour. Et je savais que c'est ça ce que je voulais. Je veux baigner dans l'amour. Donc moi, j'avais beaucoup de chance. Mais c'est aussi, oui, c'est le but. J'ai envie de dire à tous ces gens-là, essayez vraiment, laissez ces valises derrière. Car ils ont déjà assez abîmé votre vie et il ne faut pas qu'ils abîment votre futur.
D'ailleurs, on le voit dans votre parcours, vous avez cet épisode très jeune où vous faites cette forme d'anorexie de l'enfance liée à l'enfant martyr que vous étiez, mais ça ne revient pas plus tard. C'est-à-dire qu'on sait que dans le mannequinat, il y a beaucoup de formes d'anorexie parce qu'il y a eu toutes ces époques où il fallait, parfois même malheureusement encore maintenant, être très très maigre. Mais vous avez cette bonne santé mentale et puis vous êtes vraiment intéressé à la nutrition. À un moment donné, vous achetez le meilleur livre sur le sujet, vous êtes assez jeune et vous potassez ça et voilà, vous voulez pas tomber là-dedans.
En fait, à l'époque, on ne savait pas que l'anorexie existe. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est vrai que moi, j'ai vécu le moment où j'étais enlevée de mes grands-parents d'un coup. Et ils m'ont dit, bah voilà, maintenant tu vas vivre avec papa, maman, que je ne connaissais pas. Je connaissais, ils venaient pour les vacances, mais j'étais élevée par mes grands-parents. Donc, c'était une rupture assez considérable et pour moi et ma grand-mère aussi. Et d'un coup, j'arrête. Je me souviens très bien, ma petite sœur est née, et moi j'arrête de manger. Je me souviens très très bien de ce moment. J'arrive pas à avaler. C'est comme si j'ai perdu le réflexe d'agglutissement. Comment ça se dit ?
Déglutition.
Déglutition, pardon. C'est comme si j'ai perdu ce réflexe d'églutition. C'est comme ça, ça se dit ?
De déglutition. Le réflexe de déglutition. Oui, c'est compliqué en fait à dire.
Bon, bref, j'arrivais pas à avaler la nourriture du tout. Et un peu plus tard, j'arrivais pas à avaler de l'eau. C'était un effort, je me souviens, mais comme si c'était hier. Je pouvais pas avaler. Je me souviens, ma grand-mère m'a dit, mais moi, au moins, j'adorais le thé, mais j'arrivais pas à l'avaler. C'est comme si j'avais une montagne dans la gorge. Donc, mon parent m'a amené à l'hôpital. Après, j'étais déshydratée, donc ils m'ont soignée, tout va bien. Mais c'était le moment. Et depuis, j'avais du mal, quoi qu'il arrive, de manger. J'étais vraiment une petite mangeuse. J'avais jamais faim. Alors là, ma mère, combien il fallait me supplier pour que je mange. Donc, j'avais aucun intérêt. Nourriture ne me disait rien, mais rien. Donc, j'arrive en France et je ne suis pas du tout gourmande. Et toute ma vie, j'étais très mince. En tout cas, tout le monde m'avait dit, mon grand-père il m'a dit plusieurs reprises, « Mange, sinon tu vas mourir. » Et ça m'a stressée. Je me suis dit, « Oh, mais comment dire, donc, c'est sérieux, il faut que je mange quand même. » J'étais maigre, un peu maigre, mais pas le... Ça allait, hein. J'étais pas un cas, les gens ne se sont pas retournés sur moi parce que j'étais maigre. Non, j'étais très mince, on va dire. Et j'arrive à Paris, et c'est là, à l'agence, ils me disent qu'il faut perdre quelques kilos. Mais j'étais choquée.
Ouais, c'est choquant, oui.
J'étais choquée, je me suis dit, ouais, mais... J'avais envie de dire, mais regardez-moi mieux. Ça me peut pas. Je pensais que j'ai mal compris, que j'ai mal entendu, tellement j'étais choquée. Bon, bref, mais c'était la vérité. Donc, il fallait enlever 2-3 kilos. 2-3-4, je dirais même. Mais bon, vu ma gourmandise inexistante, c'était un truc qui était vite fait réglé. Franchement, je mangeais un peu moins. Et encore, que quelqu'un m'ait dit « mange-moi », je suis aux anges. Donc, non, c'était pas un souci. Mais après, quand je commence de bosser, vraiment avec un rythme soutenu, j'ai pris 6 avions par semaine, il a fallu quand même que j'ai une énergie. Donc, j'ai pris ce livre à New York, j'ai acheté ça à New York, c'était en anglais, et je l'ai toujours d'ailleurs. Il est extraordinaire, ce bouquin. Il est immense, c'est une espèce d'atlas de nutrition qui explique tout, vraiment, c'est la chimie, c'est biochimie quelque part.
Vous nous donnez le titre ?
Je décortique tout. Je ne l'ai pas, je pense que ouais, c'est la biochimie de la nutrition ou un truc comme ça.
Vous le dites hein, dans votre ouvrage, on le donnera.
Bon, voilà. Et donc, celui-là, je n'avais pas. Pardon, celle-là, je n'avais pas quand je faisais mes études, parce que j'étais encore au premier stade, 3 premières années. Tout ce qui est nutrition, c'est à la fin. Et j'ai plongé dedans et je trouvais ça tellement fascinant. En plus, ma mère est nutritionniste. Mais ma mère n'avait pas idée de ce que nutrition d'aujourd'hui est. Même moi, loin de ça, j'ai tout appris avec Simès. Mais ce livre m'a donné un waouh. C'était tellement fascinant de comprendre comment la nutrition fonctionne, qu'est-ce qu'il faut manger pour se donner le plus d'énergie possible. Bref, c'était fascinant. Et du coup, j'ai compris quels aliments étaient le plus nutritifs, les meilleurs pour le corps en restant mince. C'était la base.
Vous avez gardé d'ailleurs ces principes alimentaires dans votre vie grâce à ce livre aujourd'hui.
Mais pas toujours, hein. Après, il ne faut pas dire... J'ai développé la gourmandise après mon premier mariage. Car Christian, on se marie, et il me dit, on mange quoi ce soir? Je dis, je ne sais pas. Je ne sais pas cuisiner. Et c'est lui qui m'apprend, c'est lui qui me fait le premier plat de pâtes. Moi, j'en étais pas capable. Hein. Donc, lui, il fait le pâte à la tomate, sauce tomate. C'est lui qui le fait, je regarde. Et après, je commence petit à petit cuisiner parce que je veux tellement lui faire plaisir. En plus, c'est un sportif. Donc, vraiment, un mec comme ça, ça mange. Donc, je commence de cuisiner. Et là, je développe une passion pour la cuisine. Et aussi, je deviens gourmande, évidemment. Et là, c'est sans cesse. Là, c'est franchement, il vaut mieux me vêtir que nourrir. Ça, c'est devenu autre chose maintenant.
D'ailleurs, à l'époque, en plus, vous habitez à Milan avec Christian Carambeu, et donc vous êtes.
Je le rencontrais, il jouait à Genova. Comment ça se dit? Gênes.
Oui, c'est ça.
Gênes en Italie, et c'est là où. Je travaille beaucoup, moi, à Milan. Je travaille énormément. Donc, en Italie, on passe beaucoup de temps. On se promène un peu. Et l'Italie, c'est merveilleux. C'est la cuisine que j'adore. J'ai appris à cuisiner italien au début. Et voilà, c'est merveilleux.
Oui, c'est une merveille. On approche, hélas, de la fin de cette émission. Adriana Carambeu, peut-être pour donner l'eau à la bouche dans votre livre, on apprendra aussi... Pourquoi cette expérience que vous avez vécue dans cette émission avec Frédéric Lopez, Rendez-vous en Terre Inconnue, a laissé une empreinte indélébile dans votre cœur? J'aimerais bien finir sur votre engagement pour la Croix-Rouge depuis presque 25 ans, je crois. On sent qu'il y a cette générosité de cœur, on parlait de haut potentiel émotionnel, mais dans l'hypersensibilité, il y a ça aussi, l'envie de redonner aussi aux autres. Vous êtes toujours aussi impliquée dans cette association, ça vous tient à cœur. Peut-être nous en dire un mot avant de se quitter.
La Croix-Rouge est devenue ma deuxième famille. Je voulais tellement appliquer plus de ce que je devrais être, car au début, j'étais choisie pour faire un spot publicitaire pour promouvoir des gestes qui sauvent. Car dans le spot publicitaire, il y avait un jeu de mots entre mannequin sous lequel on fait des gestes qui sauvent et un mannequin la vraie. Et comme la personne qui m'a choisie, Sophie Baudin, elle s'appelle, et comme elle était en train de choisir justement la personne qui va faire la pub, elle a vu que j'ai fait les études de médecine. Donc elle trouvait le lien, la connexion bien. Et du coup, je me retrouve de faire ce spot. Mais ce n'était pas assez pour moi. Quand quelqu'un m'ouvre cette porte-là, j'ai l'impression que je suis destinée pour faire ça. Je reviens, je fais des études de médecine, je connais cet univers tellement, cet univers de la santé. Quand on signe, quand on veut devenir médecin, on veut aider les gens, on veut soit les soigner, soit les aider, n'importe le moyen. Donc je me suis appliquée, je suis devenue monitrice pour le geste qui sauve et ambassadrice, bénévole, bien évidemment. Et donc, c'est devenu depuis 25 ans une famille. J'ai tellement appris avec les bénévoles. Je suis tellement en admiration de leur mentalité, leur énergie, leur enthousiasme, leur disponibilité, leur envie pour aider une personne qui en a besoin. Que maintenant, ça m'a pris du temps pour être vraiment à l'aise et justifier ma place. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est fait et je suis... énormément fière de pouvoir faire partie. Je me sens utile aujourd'hui et c'est important pour moi.
Merci en tout cas de partager ça avec nous et puis merci aussi de vous être livrée aujourd'hui comme ça, sans phare, de manière si authentique. Je trouve que c'est extrêmement touchant. Je rappelle que vous êtes Adriana Carambeu, cette mannequin de renommée internationale parmi les plus emblématiques, on peut le dire, de votre génération. Animatrice de télévision, comédienne, businesswoman, citoyenne, vous l'avez dit, rappelée, active et engagée. Et surtout, maman de cette petite Nina, comme vous le dites si bien dans la quatrième de couverture de votre livre, ce miracle. Merci d'être venu aujourd'hui. On peut dire que vous êtes un modèle aussi, un rôle modèle pour toute une génération de femmes. Et vous partagez tout ça aussi sur votre compte Instagram. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans Métamorphose, partager tout ça avec nous. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Libre, tout simplement, qui vient de paraître aux éditions Le Duc. Merci beaucoup, Adriana.
C'était un grand plaisir. Merci pour ce moment.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com.
Métamorphose. Le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Charlie Hebb.
Vous n'osez pas aller vers les autres ? Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile ? Sachez que c'était aussi mon cas. Dans mon livre « Deviens un aimant social », je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer.
Deviens un aimant social de Charlie Hebb, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.